Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains. Nous allons lire au chapitre 3 les 8 premiers versets, mais nous allons nous concentrer ce matin sur les versets 1 à 4. Romains chapitre 3. Voici donc la parole de Dieu. Quel est donc l'avantage des Juifs, ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si, par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en tire du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons? La condamnation de ces gens est juste. Et jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Nous continuons donc notre étude dans cette lettre de Paul aux Romains, et Paul donc a donné son thème, le thème principal dans Romains 1, versets 16 à 17, n'a pas honte de l'Évangile parce que c'est la puissance de Dieu, la dynamite de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et pour bien saisir la beauté de l'Évangile et la nécessité de la venue du Seigneur Jésus-Christ dans le monde, Paul va à partir du verset 18 du chapitre 1 jusqu'au verset 20 du chapitre 3, parler de la condition humaine de l'homme tel qu'il est par nature. Et la description, elle, est terrible. Il a parlé de ceux qui sont d'origine païenne, les non-juifs, ceux qui sont membres des nations, donc qui ne sont pas juifs. Et il dit qu'ils sont sous la condamnation de Dieu. Que Dieu révèle sa colère contre eux. Et vous avez ce refrain qui revient, Dieu les a livrés. Dieu les a livrés à leur penchant. Et puis Paul se tourne ensuite vers ses concitoyens, vers les Juifs. Et il a montré dans la deuxième partie, dans le chapitre 2, que les Juifs eux aussi sont sous la condamnation de Dieu. Pourtant, ils sont les membres de ce peuple choisi, mais ils n'ont pas répondu aux privilèges que Dieu leur a accordés. Alors il n'y a pas, bien sûr, dans nos propos de termes antisémites, non, parce que Paul va expliquer tout simplement l'Ancien Testament. On va le voir un peu plus tard dans le chapitre 3, mais que Paul aussi lui-même est d'origine juive. Et il dit, donc il n'y a pas de propos antisémites, loin de là. Et donc Paul continue son développement. Et on arrive donc au début du chapitre 3. On a vu que Paul dit que les œuvres ne sauvent pas, que le fait d'avoir reçu la révélation de Dieu ne sauve pas. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous avons la Bible à la maison. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous entendons une explication de la parole de Dieu le dimanche matin. Paul dit ensuite que la circoncision ne sauve pas. Pourtant, la circoncision est un signe que Dieu lui-même a donné à Abraham et à sa descendance pour indiquer qu'il faisait partie de cette nation qui était spéciale, qui a été mise à part, à qui Dieu a donné des promesses de bénédiction. Mais même la circoncision ne sauve pas. Et Paul s'attaque à cette attitude religieuse. le juif, celui qui était du membre du peuple d'Israël, pouvait se dire, voilà, on comprend pourquoi les païens sont sous la condamnation de Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. Mais nous, si nous péchons, nous avons la circoncision. Nous avons le signe que Dieu nous a donné. Mais Paul dit, à la fin du chapitre 2, pour résumer, si tu possèdes le signe de la circoncision dans la chair, mais que tu ne vis pas comme quelqu'un dont le cœur a été circoncis, comme si tu as été coupé du monde, coupé de cette vie égoïste pour vivre, pour être consacré à Dieu. Il dit, ta circoncision devient incirconcision. Ce signe va se lever contre toi et te condamner. Et cette explication a fait l'effet d'une bombe, déjà pour l'apôtre Paul lui-même, pour Saul de Tarse. Et Saul de Tarse l'a sans doute entendu cela dans la bouche d'Étienne. En Actes chapitre 6, par exemple, nous lisons au début de son ministère, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec les Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. D'où venait Saul ? Saul vient de Tarse. Tarse est en Cilicie. Paul nous dit ici qu'Étienne enseignait et discutait avec des Juifs de différentes synagogues, et en particulier des Juifs de Cilicie. On peut très bien imaginer que l'apôtre Paul faisait sans doute partie de ce groupe. Et Paul, Saul de Tarse, qui a été éduqué dans les meilleures écoles, n'a jamais été surpassé par quelqu'un au cours d'un débat. Il le dit lui-même, qu'il a été zélé plus que tous ses concitoyens, qu'il les a dépassés. Rappelez-vous ce qu'il écrit en Philippiens chapitre 3, les versets 4 à 6. Il dit, moi aussi j'aurais cependant sujet de me mettre ma confiance dans la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Voilà, Paul, sur le plan religieux, il avait tout. Toutes les cases étaient cochées. Et voilà qu'Étienne arrive. Voilà qu'Étienne arrive. Et Étienne va ouvrir l'Ancien Testament. Il va utiliser l'Ancien Testament pour diriger les regards vers le Seigneur Jésus-Christ, comme étant le Messie qui était promis. Et Étienne va pourchasser ses concitoyens jusque dans un coin pour qu'ils réalisent qu'en eux-mêmes, ils n'ont rien. Ils ont besoin de la grâce de Dieu. Mais au lieu de voir que ce que Étienne dit est vrai, ses concitoyens vont le mettre à mort. Ils vont le lapider. Il est probable que tous les arguments que Paul a cités au chapitre 2, les arguments de défense du juif sont les arguments que Paul a utilisés lui-même contre Étienne, jusqu'au moment où Dieu l'a coincé et que Christ se soit manifesté à lui sur la route de Damas. Paul, rappelez-vous, était sur la route de Damas. Il était furieux, il était en colère, il voulait persécuter l'Église. Mais il est sans doute jaloux, parce qu'il avait vu la grâce de Dieu dans le témoignage d'Étienne. Il avait vu que Étienne connaissait la paix avec Dieu, et que lui, Paul, le religieux, ne le connaissait pas. Paul argumente comme Étienne a argumenté avec lui auparavant. On a dit que Paul a souligné que les païens et les juifs sont pécheurs, coupables devant Dieu. Et certains vont nous dire, mais cela semble nier que les promesses que Dieu a données aux juifs, que Dieu est fidèle à ses promesses. Et ce sont ces deux points que Paul s'attaquer à ces deux points dans les premiers versets du chapitre 3. Paul veut faire comme Étienne, en fait. Il veut amener les pécheurs d'origine juive, mais d'origine païenne, mais en particulier ici d'origine juive. Il veut les amener à plier le genou devant Dieu, à lui demander de leur faire grâce et de découvrir combien la grâce de Dieu en Jésus-Christ est merveilleuse, est incroyable. Et c'est ce que le but, le message de l'Évangile, c'est ce qu'il doit nous faire. Il doit nous amener à plier le genou devant Dieu, à reconnaître qu'en nous-mêmes, nous n'avons rien. En nous-mêmes, nous sommes coupables. Même si nous avons eu ces privilèges, même si les Juifs ont eu toutes ces bénédictions que Dieu leur a données, mais tout cela était des signes. Et au lieu de regarder vers quoi les signes pointaient, le peuple juif s'est enorgueilli d'avoir reçu les signes. Mais Paul poursuit ses concitoyens. Il vient de dire à la fin du chapitre 2 que la circoncision n'est rien si on ne pratique pas la loi. On pourrait dire, on pourrait paraphraser aujourd'hui que le baptême, quelqu'un qui est baptisé, on peut lui dire, mais ton baptême n'est rien si tu ne vis pas une vie consacrée au Seigneur Jésus-Christ. Alors si on dit ça dans certains milieux, des gens vont se lever et vont essayer de nous faire taire. Comment est-ce que tu as le droit? Comment est-ce que tu peux dire de telles choses? Moi, j'ai été baptisé dans telle église, ou j'ai été baptisé par tel pasteur. Vous niez tous les privilèges qui sont associés au fait d'être baptiste, ou d'être presbytérien, ou d'être évangélique, ou d'être anglican. En réalité, quand une personne religieuse voit les fausses fondations sur lesquelles elle s'appuie pour son salut, quand elle voit ces fausses fondations être retirées, la personne religieuse devient la personne la plus hostile à l'égard de l'Évangile. Mais c'est ce que Paul veut faire ici, envers ses concitoyens religieux. Et quand on se rappelle que ce sont les religieux qui ont crucifié le Seigneur Jésus-Christ, ce sont eux qui ont mis à mort Étienne. Une personne religieuse qui n'a jamais connu la grâce de Dieu à l'œuvre dans son cœur va être hostile à l'égard de l'Évangile. Et Paul donc arrive à ce point on peut imaginer, on peut entendre le juif religieux dire à l'apôtre Paul, « Paul, tu es en train de dire qu'il n'y a pas d'avantage à être juif. Que tu es en train de dire que puisque le juif est autant coupable que le païen, il n'y a aucune utilité à être circoncis. » En fait, Paul, tu es en train de détruire tout l'Ancien Testament. Pourtant, c'est Dieu qui nous a donné la loi. C'est Dieu qui nous a donné le signe de la circoncision. Et Paul, en fait, doit le reprendre et doit leur dire, mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'avantage à être juif. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'avantage à être circoncis. Ce que je dis, c'est que si vous avez eu ces privilèges, mais que vous ne les avez pas saisis avec votre cœur, ces privilèges vont se lever et vous condamner. Ces privilèges vont être des témoins contre vous pour vous condamner. Et c'est vous qui avez transformé ces privilèges en désavantages. Quel est donc l'avantage des Juifs, dit l'apôtre Paul? Quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand. Il est grand de toute manière. C'est vrai que c'est une surprise quand on sait que Paul, pendant tout le chapitre 2, a détruit tous les arguments du juif, leur dépendance sur la loi, sur la circoncision. Et Paul dit qu'il y a un avantage. Les juifs ont un avantage. Il va donner des raisons. La première raison, c'est que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Dieu a donné au peuple juif sa révélation, sa parole pleine d'autorité. Israël était le seul peuple à qui Dieu avait donné cette révélation. Et on a vu récemment l'histoire de l'eunuque, qui, pour adorer Dieu, doit se rendre à Jérusalem, sans doute sur le témoignage laissé par la reine de Saba quelque temps auparavant. Et c'est là, à Jérusalem, qu'il peut acheter une copie d'une partie de l'Ancien Testament, et notamment du livre d'Ésaïe. C'est là, à Jérusalem, parce que c'est là que Dieu avait donné sa révélation. C'est à ce peuple que Dieu avait donné les Écritures. Il avait donné cette révélation comme guide pour le salut dans le Messie. Et tout l'Ancien Testament annonce la venue du Seigneur Jésus-Christ, annonce la venue du Messie. Et Paul reprend cela, par exemple, quand il écrit à Timothée, dans ce qui est sans doute sa dernière lettre, Timothée, qui n'était pas circoncis, mais dont la mère était juive, et va dire à Timothée, « Est-ce que tu réalises les privilèges que tu as eus ? Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à celui par la foi en Jésus-Christ. Ces lettres qui ont été inspirées de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire, pour que tu sois un serviteur accompli et propre à toute bonne œuvre. » De Timothée 3, les versets 15 et 16. Voilà le privilège. Voilà le privilège reçu. La parole de Dieu. Dieu leur a donné sa parole. Mais certains d'entre nous aussi, ce matin, ont eu le privilège de grandir, de naître et de grandir dans une famille chrétienne, d'entendre la parole de Dieu, non pas seulement le dimanche matin, mais aussi à la maison. Mais certaines personnes vont gaspiller ce privilège. Pourtant, on est dans la même situation que les autres, nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous dans le besoin, nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Nous avons tous besoin de son pardon. Mais nous avons le privilège d'avoir la parole de Dieu, d'entendre la parole de Dieu. Et parfois, en étant jeune, dans une famille chrétienne, parfois les parents doivent nous traîner pour venir au culte, parce qu'on se dit que, oh non, dimanche matin, on peut utiliser notre temps d'une meilleure manière. Mais nos parents savent que c'est une bénédiction, que c'est un privilège d'écouter, d'être sous le ministère de la parole de Dieu. Est-ce que nous allons gaspiller ce privilège ? Ce privilège ne sauve pas. Nos parents ne nous sauvent pas. La lecture de la parole de Dieu à la maison ne sauve pas. Mais ce sont des privilèges. Ce sont des privilèges que Dieu nous a donnés et nous sommes appelés à répondre par la foi en Christ. Ont-ils des privilèges ? L'apôtre Paul dit oui, Dieu leur a confié les oracles de Dieu. La parole de Dieu a été mise dans leurs mains. Mais la question que nous devons nous poser, c'est ce n'est pas est-ce que nous avons reçu la parole de Dieu, mais est-ce que la parole de Dieu a touché notre cœur ? Est-ce que la parole nous a amené à plier le genou devant le Seigneur Jésus-Christ, à lui demander d'être notre Seigneur et Sauveur ? Paul s'adresse à des personnes qui sont membres du peuple de l'Alliance, mais elles ont autant besoin de la grâce que les personnes qui sont membres des nations autour, des nations païennes. Et de la même manière, un enfant qui est né dans une famille chrétienne a autant besoin de la grâce de Dieu. Il a tous les privilèges. Il voit, il a la parole de Dieu. Il peut entendre la parole de Dieu. Il peut voir le témoignage de ses parents. Mais il a autant besoin de la grâce de Dieu que ceux qui sont autour. Que fait-on de ce privilège ? Le monde autour de nous est dans les ténèbres. Il ne veut pas écouter la voix de Dieu. Il est dans, Il est sous la condamnation. Nous, nous avons ce privilège de connaître la parole de Dieu, d'entendre cette parole qui nous dit que nous sommes par nature des pécheurs, que nous sommes sous la condamnation de Dieu. Mais qui nous dit aussi que le seul moyen de salut est en Jésus-Christ et en lui seul. Comment est-ce que nous répondons à ces privilèges? Est-ce que nous allons être comme les Juifs qui vont se dire, simplement s'enorgueillir d'avoir reçu ce privilège et dire, ah, nous avons été choisis, nous avons été mis à part, donc nous sommes quelques-uns, nous sommes meilleurs? Ou est-ce que nous allons répondre en disant, non, Dieu nous a fait grâce en nous donnant ces privilèges qui nous pointent vers le Seigneur Jésus-Christ. Venons à Christ dans la foi. Quel est l'avantage des Juifs? Il est grand, nous dit l'apôtre Paul. Il est grand de toute manière. Si nous avons grandi dans une famille chrétienne, nous sommes effectivement dans la minorité dans ce monde. La plupart de nos copains, de nos copines à l'école ne sont pas de famille chrétienne. Ça se traduit aussi dans le monde du travail. Peu de collègues sont de famille chrétienne. Et Dieu nous a donné des privilèges. Nous avons le privilège encore ce matin d'avoir entendu et d'ouvrir sa parole. Qu'est-ce que nous faisons avec ce privilège? Est-ce que nous allons répondre dans la foi? Est-ce que nous venons à Christ dans la repentance? Est-ce que nous allons suivre ces panneaux qui nous indiquent que le seul moyen de réconciliation avec Dieu est par le Seigneur Jésus-Christ? Ils ont reçu les oracles de Dieu. Ils ont reçu la parole de Dieu. Nous aussi, nous l'avons ce matin. Mais qu'est-ce qu'on fait avec? Qu'est-ce qu'on fait avec cette parole de Dieu? La deuxième chose que Paul nous dit, c'est que Dieu est fidèle. Et Paul, en fait, il répond à une objection que nous avons au verset 3. Quelqu'un objecte à l'apôtre Paul et dit, mais si quelqu'un n'ont pas cru, leur incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu? L'argumentation ici, elle est plutôt pathétique. Est-ce que la fidélité de Dieu serait annulée à cause de l'infidélité de quelques-uns? Paul dit non, pas du tout, loin de là. Paul vient de dire que Dieu a accordé des privilèges aux Juifs. Mais certains vont dire, en fait, Paul, tu dis que Dieu ne tient pas ses promesses, parce qu'il a promis que nous serions un peuple spécial, mais tu viens de dire que le Juif est autant coupable que le païen. Alors, où sont tes arguments? Et Paul va citer un psaume, et pas n'importe lequel. Et en fait, c'est comme s'il disait aux Juifs qui s'opposent à lui, qui a été le plus grand roi? Qui a été l'homme selon le cœur de Dieu? Qui a été celui que Dieu a oint? Qui est l'auteur des psaumes que nous chantons? C'est le roi David. Il a été circoncis. Il a reçu les oracles de Dieu. Mais en citant le psaume 51, un psaume de repentance, Paul veut souligner que David a été pourchassé par le prophète Nathan jusqu'à ce que son cœur soit exposé, jusqu'à ce que son péché soit révélé. Et bien qu'il soit circoncis dans la chair, bien qu'il possède les oracles de Dieu, qu'il possède les privilèges de faire partie du peuple de Dieu, cet homme avec ses privilèges dit dans le psaume 51, verset 6, « En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Il y a une différence de traduction. La version en grec dit « Afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. » Ça ne change pas grand-chose. Mais pour la forme active, pour celle qui... La première, sans reproche dans ton jugement ou sans reproche quand tu juges. On se rappelle de la rencontre avec David, avec le prophète Nathan. Et par la bouche de David, de Nathan, Dieu va accuser David d'être ingrat, d'avoir offensé Dieu. Et Dieu juge selon cette accusation. Et David va le reconnaître. David va confesser que, oui, c'est contre l'Éternel qu'il a péché. Et que Dieu sera juste dans ses paroles, dans sa sentence. Qu'il sera sans reproche. Que Dieu a raison de juger et de le punir. Dans la forme passive, quand c'est traduit par « tu triomphes lorsqu'on te juge », on doit réaliser que c'est Dieu qui a permis à David de chuter, de tomber aussi bas, pour montrer que sa parole est vraie, quand elle déclare que tous les hommes sont pécheurs. Si les saints qui sont dans la parole de Dieu étaient préservés du péché, on pourrait penser que l'homme est meilleur que ce qu'il n'est en réalité. Et l'homme naturel, très vite, va faire venir Dieu au tribunal et va l'accuser en disant que sa description de l'homme, elle est erronée, que l'homme n'est finalement pas aussi mauvais que la parole de Dieu le dit qu'il l'est. Mais les chutes, les manquements, les péchés de l'homme montrent que Dieu dit vrai. Et que l'homme est ce que Dieu déclare qu'il est, c'est-à-dire pécheur. Il est pécheur. Et ceux qui veulent juger Dieu perdent. Ils révèlent la justice de Dieu. Et Dieu triomphe, en sorte que tu triomphes lorsqu'on te juge. Et comme Paul le résume au verset 4, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Le témoignage de l'homme concernant lui-même est contraire au témoignage de Dieu. L'homme dit « Ah non, je suis malade ». Dieu dit « Non, tu es mort. Tu es mort dans tes péchés et tu ne peux absolument rien pour ton salut. » Paul utilise la version grecque et il s'appuie sur ce témoignage de David et il dit aux Juifs « Mais non, Dieu tient ses promesses. Dieu est fidèle. Vous avez eu tous les privilèges qu'un homme peut avoir. » Dieu tient sa parole, il n'a pas failli. C'est vous qui êtes sans foi. C'est vous qui êtes incrédule. C'est vous qui vous êtes rebellé contre Dieu. Dieu vous a donné les privilèges, mais vous les avez gaspillés. Vous les avez dilapidés. Dieu vous a donné ses promesses. Mais il attendait en retour une obéissance, une réponse d'obéissance, une réponse de foi. Il vous a aussi donné des malédictions en cas de désobéissance. Et Paul est en train de se battre, de pourchasser ces religieux pour les amener à poser le genou à terre, pour qu'ils confessent leurs péchés, qu'ils reconnaissent leur perdition, que malgré tous les privilèges reçus, ils sont aussi coupables que les païens. Et Paul sait. Il comprend leur réaction, il comprend leur raisonnement, parce que lui aussi a été dans ce cas. Vous vous rappelez encore une fois ce passage que j'ai cité tout à l'heure de Philippiens chapitre 3. C'est comme si Paul, dans la colonne de vie, dans la colonne crédit, tout était coché. Circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreux des hébreux, pharisiens quant à la loi, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. On pourrait résumer en paraphrasant de cette manière. Il dit, mais Paul est en train de dire, je n'avais pas de besoin, parce que j'étais un membre de ce peuple choisi. Toutes les cases étaient cochées. Et puis Dieu fait venir un vrai croyant dans la vie de Paul. Et quand Étienne a commencé à montrer la grâce de Dieu, à parler de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, Paul réalise qu'il n'est pas en règle avec Dieu. malgré que toutes les cases soient cochées. Et Paul va commencer à se débattre. Et il va persécuter l'Église. Parfois, nous nous débattons, mais en silence. Nous entendons un message assis sur une chaise, assis dans le fauteuil. Et on va se dire, oh, ce que dit le prédicateur, c'est pas pour moi. C'est bon pour lui, mais c'est pas pour moi. Pourquoi est-ce qu'il parle de moi ainsi? Il est en train de dire que je ne suis pas différent des autres, que je suis autant pécheur que les autres. Pourtant, moi, je suis né dans une famille chrétienne. Moi, j'entends la parole de Dieu toutes les semaines ou même tous les jours à la maison. Et on va chercher à se défendre, on va chercher à s'appuyer sur les privilèges, comme le juif est en train de faire. Je suis né dans telle famille, j'ai grandi sous le ministère de tel pasteur de renom. Je suis allé dans telle église. Jésus lui-même dit qu'au jour du jugement, certains vont essayer de se défendre en donnant une liste de tous leurs accomplissements, de tout ce qu'ils ont fait, et parfois des choses même extraordinaires. Vous connaissez sans doute ce passage, Matthieu 7, verset 22. « Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» La réponse du Seigneur Jésus est terrible. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Pourtant, ils ont fait des choses. Mais Jésus leur dit, je ne vous ai jamais connu. Et c'est là, en fait, la clé. C'est là, la clé. C'est pas, vous n'avez rien connu à mon sujet. Non, on peut connaître beaucoup de choses au sujet du Seigneur Jésus-Christ. Non, la clé, c'est « Vous n'êtes jamais venu à moi. Vous ne m'avez jamais cru. Vous ne vous êtes jamais donné à moi. Vous ne m'avez jamais reconnu comme Seigneur, comme votre Sauveur. » C'est ça le test. Est-ce que nous connaissons? Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est mon Seigneur, mon Sauveur? Si la réponse est négative, tous les privilèges ne sont rien. Toutes les bénédictions que Dieu nous a accordées ne sont rien. Dans le chapitre précédent, Paul a utilisé un verbe intéressant quand il parle au verset 17 du juif qui se repose sur la loi. La question pour nous est, sur quoi ou sur qui est-ce que nous nous reposons? Est-ce que nous nous reposons sur les bénédictions que Dieu nous a données? Ou est-ce que nous nous reposons sur celui qui est indiqué par ces bénédictions? Ou vers qui pointent ces bénédictions? Paul veut détruire toutes ces défenses que nous nous élevons pour essayer de nous justifier. Il veut nous amener à mettre le genou à terre et à venir à Christ tel que nous sommes, sans rien à nous, sinon le sang de Christ versé pour nous. Est-ce que nous appartenons? Est-ce que nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ? Parfois, dans sa providence, Dieu va nous amener dans un coin où nous ne voyons pas d'issue. Et Dieu nous parle par sa parole. Et nous avons, encore une fois, ce privilège. Nous avons sa parole. Et il nous amène à réaliser que nous ne sommes pas ce que nous croyons être. Que nous ne sommes pas en règle avec Dieu. Même si nous avons tous les privilèges, même si, comme les Juifs, nous avons reçu des privilèges de la part de Dieu. Et comme nous devons répondre à ces privilèges, comme ce publicain qui s'écrit dans le temple, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Lorsque nous venons à Christ dans la repentance et la foi, nous entrons dans cette assemblée de personnes qui vont profiter de ces privilèges et de profiter de ces privilèges pleinement. Nous avons la nourriture quotidienne, nous avons un accès libre dans la présence de Dieu, nous avons la paix avec Dieu, nous n'avons plus de condamnation à craindre. Nous avons une intimité, nous jouissons d'une adoption dans la famille de Dieu. Imaginez, aucun ange ne peut appeler Dieu son Père. Ceux qui sont à Christ peuvent l'appeler et le connaître comme leur Père. Nous avons un guide, nous avons un appui, nous avons un berger, nous avons un sauveur qui est compatissant, qui nous comprend. Ne négligeons pas les privilèges. Ne suivons pas l'exemple du peuple juif qui s'est arrêté aux privilèges et ne pas regarder vers quoi et vers qui pointaient ces bénédictions. Nous, nous avons reçu des privilèges. Ne les gaspillons pas. Les privilèges ne sauvent pas. Le fait d'avoir la parole de Dieu ne sauve pas. Mais regardons ces privilèges que Dieu nous a donnés et suivons leurs indications, ces signes qu'il nous donne, qui pointent tous vers le Seigneur Jésus-Christ. Et venons à lui dans la repentance et la foi, afin que, par sa grâce, il fasse de nous un membre de son peuple, dont le cœur est circoncis. Il y a des privilèges, mais nous ne nous arrêtons pas aux privilèges. Venons à Christ, dans la repentance et la foi. Que Dieu, donc, bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.